Bonsoir Samuel Hercule et Mathilde Veillargans. Vous venez de présenter Dans la peau de Don Quichotte au théâtre de la Croix-Rousse. Alors vous faites l'adaptation, la réalisation et la mise en scène de ce spectacle, tous les deux. Vous nous dites dès le départ d'où vient cette idée de faire ce spectacle avec Don Quichotte, puisque apparemment vous auriez trouvé un scénario dans un vide-grenier. Alors est-ce que c'est vrai cette histoire ?
Non. Là, on est là pour raconter des histoires, c'est ça qui est amusant. Alors, on s'est servi de ça parce que nous, depuis très longtemps, une des choses qui fait partie de notre travail, c'est le bruitage. Et les gens qui nous connaissent savent qu'on passe beaucoup de temps dans les vide-greniers, dans les Emmaüs, tout ça, à chiner un peu des objets qui pourraient faire du bruit. Donc, c'est un clin d'œil à Cervantes que de dire qu'on avait trouvé un scénario dans un vide-grenier, parce que lui-même, dans le tome 2, il raconte ça, il dit qu'en fait, il est un peu en panne d'inspiration et qu'il trouve un manuscrit dans un marché en arabe qu'il décide de faire traduire par un certain Sid Ahmed Ben Enreli, et que donc ce qu'il nous raconte, c'est pas lui qui l'a écrit. Donc c'est ce qui est assez moderne comme narration, alors que ça a été écrit en 1600 et quelques. Donc voilà, donc on est vraiment, l'idée c'était vraiment de travailler autour de son œuvre à lui et de voir comment nous on pouvait s'y glisser.
Et alors le personnage de Don Quichotte, qu'est-ce qui vous a parlé en premier ? Quand vous avez eu cette idée, en fait ?
Ce qui nous a intéressé, c'est que ça faisait écho à l'utopie de nos sociétés actuelles, et on trouvait que c'était intéressant de confronter ce vieux personnage bien connu et qui représente l'utopie, et de voir en fait qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui il y avait un Don Quichotte dans nos campagnes. Et on a écrit ce spectacle pile pendant la campagne présidentielle, qui a été très inspirant pour nous, parce que c'est vraiment le moment de l'utopie qui se heurte au principe de réalité. Et en plus, on a eu la chance d'avoir des candidats très caricaturaux, c'est-à-dire des très utopistes et des très principes de réalité. Et on s'est dit que c'était ça, finalement, vraiment notre sujet. C'est ce qu'à un moment il dit, si on mène pas les batailles perdues d'avance, alors c'est notre monde qui est perdu. Une petite référence également à mai 68, qui était un grand moment de l'utopie, comme on n'en a plus connu depuis. Donc je pense qu'on peut mettre ce terme utopie au centre de notre intérêt pour Don Quichotte.
Et alors moi j'ai noté aussi sur un sens plus intérieur, parce que vous avez tout un univers comme ça, ça évoque un peu, on pourrait dire l'enfant, ou en tout cas l'imaginaire, l'imagination, enfin voilà. Et sur la fin il y a une petite réflexion sur le chevalier, finalement les chevaliers ne meurent pas.
C'est l'idée en fait des idéaux, c'est-à-dire que ce chevalier-là, il incarne l'idéal. L'idéal, c'est tout celui qu'on a dans nos têtes, les uns et les autres, et de qu'est-ce qu'on en fait. Et alors, il y a toute une réflexion assez à la fois triste autour de ça, parce que être idéaliste et, comme le disait Samuel, être utopiste aujourd'hui, comme jadis, mais peut-être encore pire aujourd'hui, c'est très difficile. Et après, nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de questionner le point de vue. En fait, c'est cet homme-là, pour lui, il est Don Quichotte. Et ce sont les autres qui le regardent différemment. Donc, est-ce que c'était le Michel Alonso, c'est-à-dire ce petit bibliothécaire qu'on découvre au début, qui s'ennuie visiblement, qui a une vie bien carrée, qui vit seul et qui, voilà, qui n'a pas tellement de passion. Est-ce que c'est sa vie à lui qui est terrible, ou est-ce que c'est finalement d'avoir été au bout de quelque chose ? Alors, on peut appeler ça la folie, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais c'est intéressant de questionner autour de ça, en tout cas.
Et puis, il y a aussi qui sommes-nous derrière le miroir, parce que finalement, les personnages regardent le film avec un miroir pour faire la doublure.
Nous, on travaille beaucoup avec des rétroviseurs divers et variés sur tous nos spectacles pour être face publique. Et ça a toujours un sens dans tout le travail qu'on fait. On avait adapté avant Blanche-Neige ou La chute du mur de Berlin, donc on avait adapté Blanche-Neige. Et là, évidemment, le miroir a un rôle essentiel. Donc c'était vachement intéressant de jouer de ça. Et là aussi, c'est-à-dire, de toute façon, une mise en abîme de notre travail. On est sur scène, on est à l'écran. Et donc, est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte ? Parce qu'on est là en même temps en chair et en os, mais en même temps, on incarne des personnages. En plus, on incarne tous les personnages qui sont à l'image, on les incarne vocalement, on les interprète. Donc voilà, on perd un peu le spectateur tout en le conduisant quelque part de façon bien précise. Mais...
Oui, c'est ce que j'allais dire. Le spectateur est à la fois happé par l'histoire et en même temps, il est intrigué par les ustensiles, les objets que vous utilisez sur scène, pour les bruits, pour les voix. Et donc, il y a une impression de spectacle à plusieurs niveaux et aussi plusieurs niveaux de réalité, forcément.
Oui, des fois on dit qu'on fait une sorte de millefeuille théâtrale, c'est-à-dire qu'on superpose des éléments et des narrations et qui forment un tout. Et effectivement, il y a la narration qui est portée par le film qu'on a écrit. Puis après, il y a tout ce qui se passe en live, toute la performance des comédiens et des musiciens sur scène. Et la fabrication de cette histoire fait partie de cette histoire, c'est-à-dire que montrer aux spectateurs comment on fabrique, comment on raconte les choses, comment on peut interpréter plusieurs personnages en changeant de voix, comment on peut recréer des sons avec des objets du quotidien, c'est aussi renforcer l'histoire qu'on raconte à l'écran.
Oui, puis c'est comme si le spectateur était quelque part dans les coulisses, voire participait aussi à votre création, puisqu'il réagit forcément à ce qui se passe.
Oui, oui, cette fabrication, elle est assez agréable à regarder. C'est-à-dire qu'on aime bien savoir comment on fait les choses. Et on pense que le faire à vue, c'est rajouter un peu de merveilleux à l'histoire qu'on raconte au lieu de le cacher.
Oui, et alors on sent à ce sujet une grande cohésion dans votre équipe. Je pense que vous connaissez tous bien. Mmh. Ça se sent sur scène. Et ça me veut qu'un peu les arts martiaux. C'est-à-dire qu'il faut d'abord maîtriser techniquement des enchaînements pour pouvoir ensuite abandonner l'aspect technique et être dans le live complet, quoi. Donc j'ai noté qu'il y avait cette maîtrise du film, puisque je crois que vous venez du cinéma. Mm-hmm. Maîtrise du son, la bande-son, du bruitage, du doublage, et du coup maîtrise du temps, puisque c'est live en fait.
Effectivement, ce que vous dites est très juste dans la façon dont on travaille, c'est-à-dire que quand on est au plateau, que le film est réalisé et qu'on est donc avec les musiciens, avec le créateur sonore, avec donc le comédien, là, il y avait Philippe qui interprète Don Quichotte qui était avec nous, c'est d'abord se débarrasser de toute cette technique qui est énorme en fait. Et l'idée, c'est qu'elle ne soit pas un poids pour le spectateur et évidemment d'abord qu'elle ne soit pas un poids pour nous. Donc c'est énormément de répétitions, on a besoin de travailler en immersion, quoi. C'est total, on était pendant 3 semaines et quelques ensemble, 6 jours sur 7, de 9h à minuit, parce qu'il y a besoin de faire et refaire et refaire et refaire pour après pouvoir être dans l'interprétation, autant pour la musique que pour les comédiens bruiteurs sur scène. Donc ça demande un temps assez fou, et c'est vrai qu'on se connaît tous depuis très longtemps, donc il y a une facilité de communication et d'apprentissage de ces choses-là, de cette technique qui est assez évidente pour les uns et les autres.
Oui, parce que sans l'unité, finalement, ça n'aurait pas la même dimension.
Oui, c'est vraiment un tout, effectivement. Au départ, les choses nous paraissent toujours compliquées quand on commence à répéter ce genre de spectacle. C'est beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à automatiser, hein, comme vous disiez. J'aime bien l'idée des arts martiaux, je la ressortirai. Et puis, une fois qu'on a automatisé tout ça, c'est trouver la cohésion. Et la cohésion, elle continue. C'est-à-dire, je pense qu'on a fait plus ou moins 35 représentations. Et on progresse et on continue de progresser.
Et du coup, depuis quand vous faites ce genre de spectacle où vous mêlez cinéma, théâtre et bruitage?
Depuis toujours, en fait. Ouais. En gros, depuis une vingtaine d'années, même si au départ, c'était des spectacles qui étaient, au départ, présentés dans des bars, c'est des petits films tournés comme ça, en Super 8. Il y avait déjà de la musique, du bruitage. Il n'y avait pas de voix encore. C'est beaucoup moins théâtralisé. Et après, c'est venu un peu sur scène, sur des formes qui étaient plutôt destinées au jeune public. Mais en fait, c'est parce qu'on est venu nous chercher pour ce genre de choses-là. Et après, on a fait des spectacles qui étaient plutôt tout public, parce que justement, nous, on aime travailler différents niveaux de lecture. Et selon l'âge qu'on a et le bagage culturel qu'on a, la sensibilité et tout, on prend pas exactement les même chose dans chaque spectacle, et ça c'est une chose qui nous passionne. Mais on aime le cinéma, on aime le théâtre, on aime la musique, on a réussi à trouver une forme qui est vraiment la nôtre, qui est une chose qu'on a inventée de cette façon-là, qui permet de réunir toutes ces choses-là. Et à chaque fois, à chaque spectacle, c'est se renouveler et c'est se re-questionner sur la forme, et ça c'est un travail passionnant qu'on mène depuis 20 ans.
Est-ce qu'il y a une petite référence au cinéma des Frères Lumière, parce que je crois que la Cordonnerie, votre compagnie est née sur Lyon, il y a du cinéma. Ça ressuscite un peu le cinéma muet de l'époque, en amenant quelque chose de moderne, évidemment, avec une histoire originale.
Je pense que dès qu'on fait du cinéma, on fait un peu un hommage aux Frères Lumière, puisque c'est eux qui l'ont inventé. Donc, mais après, c'est vrai que nous, on a dans notre façon de réaliser le film qui est projeté, c'est quand même une réalisation qui est très moderne dans le code de jeu, dans l'esthétique. L'idée, c'est pas de faire des films muets, c'est des films où les gens parlent pas beaucoup. Souvent, dans nos films, les gens parlent pas beaucoup. Alors là, ils parlent un peu plus que dans d'autres, mais voilà. C'est quand même important pour nous d'avoir une réalisation qui est la nôtre, qui est un peu particulière. Par ailleurs, on a fait des films qu'on réalisait pas de la même manière. C'est-à-dire le fait que le film fasse partie d'un tout, de ce spectacle, on les réalise pas du tout en le pensant de la même façon. Donc je pense que c'est une réalisation qui est un peu calquée, inventée pour ces ciné-spectacles.
Dans la peau de Don Quichotte, jusqu'au 19 mai au Théâtre de la Croix-Rousse. Merci d'avoir répondu à nos questions, et donc peut-être à la prochaine création, on ne sait pas encore ce que c'est.
Nous, vaguement en tout cas.